Note lecteur. La plupart des éléments de ce roman sont avérés et basés sur une solide documentation scientifique ou issue de rencontres faites au gré de mes recherches. Tout ce qui est décrit autour du sang, son histoire, ses maladies, le circuit du don, le bioart et ses étranges peintures est vrai. En revanche, ne cherchez pas le Koroba, les Banaru ou les Sorowai sur Internet ni ailleurs, vous ne les trouverez pas, ils sont pure fiction. Pure fiction, pas tant que cela, toute réflexion faite. Mon cerveau de conteur d'aventure s'est juste appuyé sur les épopées peu communes de ces hommes aventureux qui, par leur courage, leur acharnement et leur goût de la découverte, font avancer l'humanité. La cruauté de mes personnages et de mon récit m'a fait tout naturellement m'éloigner d'eux. Permettez-moi néanmoins de vous exposer en deux pages les faits exacts qui m'ont en partie inspiré. En 1957, Michael Alpers, un étudiant en médecine australien, entendit parler d'une grave affection neurologique spécifique aux forts, une tribu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les anthropologues qui avaient voyagé dans ces contrées encore inconnues racontaient que les individus atteints tremblaient, riaient et perdaient l'équilibre. Cette maladie, bien vite baptisée le courroux, la mort riante, était associée par les forts au pouvoir des sorciers ennemis. Alpers passa une bonne partie de sa vie auprès des forts, à essayer de comprendre le mal qui les frappait eux, et seulement eux. Après des années, un autre aventurier le rejoignit, le virologue américain Daniel Carlton Gajdusek, seul autre chercheur décidé à cerner ce terrible mal. Les deux hommes découvrirent alors pour la première fois une maladie neurodégénérative transmissible d'humain à humain que les indigènes contractaient en ingérant le cerveau de leurs défunts lors de leur rite anthropophage. Leur immense découverte fut publiée en 1966. Ils affirmèrent que le tout premier cas était apparu de façon spontanée et firent ensuite le rapprochement avec une maladie très rare dont tout le monde se désintéressait à l'époque parce qu'il n'y avait eu que quelques cas recensés depuis sa découverte 40 ans plus tôt, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les deux hommes décidèrent alors de se pencher sur la MCJ. Était-elle transmissible? Comme ils l'avaient fait pour le courroux, ils injectèrent les cellules cérébrales d'une victime de Creutzfeldt-Jakob à des chimpanzés. Les singes contractèrent la maladie. Ils prouvèrent ainsi le caractère transmissible de la MCJ. Daniel Carlton Gajdusek établit que le responsable n'était ni un virus connu, ni une bactérie identifiée, et qu'il était 1000 fois plus petit qu'un agent pathogène classique. Il obtint le prix Nobel de médecine en 1976 pour la découverte d'un virus non conventionnel. Plus tard, Stanley Ben Prusiner, un neurologue américain, mit un nom sur ce virus non conventionnel, le prion, qui n'avait rien d'un virus en fait. Il décrivit ainsi le premier nouvel agent pathogène depuis un siècle et obtint le Nobel en 1997 pour ses travaux sur les prions. 25 ans après l'arrêt des pratiques cannibales imposées par le gouvernement australien, une trentaine de forts déclaraient encore la maladie. De nos jours, un ou deux cas par an continuent à apparaître. Des individus de 70-80 ans qui, jeunes enfants, ont mangé des cerveaux malades. Cela prouve que les délais d'incubation du courroux peuvent être de plus de 50 ans. Or, 1985, une pratique cannibale moderne faisait trembler le monde entier. La maladie de la vache folle a été propagée par les fameuses farines animales constituées entre autres de cerveaux broyés. 10 ans plus tard, on constatait que la maladie était passée à l'homme qui, en bon consommateur des vaches incubant la maladie, mangeait lui-même, en quelque sorte, les cellules cérébrales défectueuses. On l'appelait la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Depuis 1995, 150 personnes l'ont contractée en Grande-Bretagne après avoir avalé de la viande bovine infectée. Mais on soupçonne à l'identique du courroux des délais d'incubation pouvant atteindre 50 voire 100 ans. Combien de personnes sont réellement infectées et mourront sans que la maladie se déclare ? Qu'en est-il des dons, organes, sang, tissus, qu'ont pu faire ces personnes? Remerciements. Je remercie Hervé Jourdain, Karim Mahachi, Lionel Olivier pour leurs explications sur les procédures policières, les faits de police scientifique et toutes ces histoires parfois bien compliquées de balles ou de douilles. Le professeur Gilles Tournel pour les parties concernant la médecine légale. Les personnes de l'établissement français du sang de Lille pour leur accueil, leur gentillesse, leurs explications et plus particulièrement Régine Béguin, le docteur Pelletier, ainsi que le docteur Delemer. J'ai croisé là-bas des personnalités généreuses, dévouées à des années-lumière des méchants scientifiques que je décris parfois dans mes livres. Je remercie aussi les scientifiques, médecins, chercheurs, journalistes d'investigation qui écrivent des livres, des thèses et nous font partager leur passion, leur métier, leurs découvertes. Ils sont le ciment de mes histoires. Les erreurs, raccourcis ou imprécisions qui, malgré tout, subsisteraient dans ce roman, m'incombent totalement. Les équipes de Fleuve Édition, de Pocket et plus globalement d'Univers Poche qui m'accompagnent et me font confiance depuis toutes ces années. Ma famille, bien sûr, qui sait que l'écriture d'un tel livre n'est pas un long fleuve tranquille. Et vous, mes chers lecteurs, vous êtes le rayon de soleil qui traverse mon bureau lorsque je m'y installe chaque matin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et pensez au don du sang, un geste simple, mais surtout une expérience humaine qui sauve des vies.